CQFD.
C'est une histoire oubliée, mais en lien avec ce foutu coronavirus que nous raconte le médecin et épidémiologiste Luc Perrineau dans son dernier ouvrage. Il s'intitule « Patient zéro », c'est paru aux éditions La Découverte, Sarah Dirène.
Oui, un patient zéro qui est souvent le point de départ d'une enquête complexe dans le cas du coronavirus, comment le virus a pu passer de l'animal à l'homme. Et chercher le patient zéro, c'est parfois désigner un bouc émissaire. On peut penser à Trump et son virus chinois. Alors je précise tout de suite que ce livre a été écrit avant la pandémie. C'est le hasard du calendrier qui fait qu'aujourd'hui, Luc Perrineau rend hommage à tous ces patients zéro qui ont permis à la médecine d'avancer, de trouver des remèdes, des parades, des vaccins contre la tuberculose ou par exemple la typhoïde. Ce livre brosse le portrait d'inconnus, ou presque, Monsieur Tan, grâce à qui Paul Broca a su faire le lien entre la parole et le cerveau à la fin du 19e, Madame Auguste et son médecin incertain Aloïs Alzheimer, plus connu Phineas Gage, patient zéro de la neurophysiologie de l'humeur, ou encore Joseph Meiser, qui fut un des premiers à être vacciné contre la rage. Alors, on se souvient de Pasteur, mais pas du patient zéro qui souvent a compté pour zéro et fut parfois un cobaye de la médecine. Dans son livre, Luc Perrineau raconte donc l'histoire de la médecine du point de vue des patients et nous rappelle que c'est parce qu'il y a des malades qu'il y a eu un jour la médecine et non l'inverse.
Et Luc Perrineau que nous accueillons dans CQFD, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, je vais m'adresser tout d'abord, parce que vous êtes aussi épidémiologiste, donc je vais m'adresser à l'épidémiologiste. Connaît-on aujourd'hui le patient zéro du Covid-19 ?
On commence à en avoir une bonne idée. Apparemment, tout a débuté sur un marché de poissons à Wuhan et on parle soit d'un client, soit de la vendeuse, un des deux qui serait donc le premier jusqu'à maintenant, mais c'est provisoire, je suppose, le premier qui aurait été contaminé probablement par un virus venant d'un animal.
Ça a un sens de le connaître, justement, ce patient zéro ?
Alors, c'est intéressant, bien sûr, toujours. C'est pas intéressant pour soigner la maladie. Maintenant qu'elle est là, il faut qu'on dépiste les gens et qu'on les soigne. Ça, c'est essentiel. Par contre, pour la recherche fondamentale, c'est intéressant. Il faut comprendre que nos connaissances ont évolué, bien sûr, depuis longtemps. Avant, on n'avait même pas l'idée qu'il pouvait y avoir des maladies contagieuses. On pensait que les infections, ce qu'on appelait une infection, venait de la qualité du sol où on vivait ou de l'air. Et puis un jour, on a compris qu'il y avait ce qu'on appelle la contagion. Et donc là, on a commencé à pister un peu l'origine de certaines maladies. On sait par exemple que la dernière peste de Marseille a commencé à partir d'un bateau qui était dans le port de Marseille. On connaît le début exact de cette épidémie. Et puis après, on a progressé dans les données, c'est-à-dire les données chiffrées, qui nous donnaient des indications sur la mortalité en fonction de l'âge des personnes. Et maintenant, on est allé encore plus loin, puisqu'on s'est identifié un virus, le génome d'un virus. C'est-à-dire qu'on a l'identification génétique d'un virus et on peut même connaître, j'allais dire, le début d'une épidémie avant même que celle-ci existe, finalement. On a eu la connaissance de la dangerosité du coronavirus qui était passé, donc transmissible d'homme à homme, alors qu'il y avait eu seulement quelques cas en Chine. Enfin, depuis moins d'un mois, on s'est dit, tiens, là, il y a quelque chose d'inquiétant.
Alors, dans votre livre, Luc Perrineau, vous revenez sur le SRAS de 2003, parti de Hong Kong en mars. On sait même que le patient zéro était dans la chambre 911 du Métropole. C'est une épidémie qui a touché près de 8000 personnes, dont 800 sont mortes. Quel parallèle, justement, on pourrait faire avec le SRAS 2, le SARS-CoV-2 responsable de la maladie Covid-19, qui touche aujourd'hui des millions de personnes ?
Alors, il y a presque le parallèle, j'allais dire, c'est presque une copie conforme, en fait. C'est une copie conforme de ce premier SRAS, on l'appelle SRAS ou SARS, selon qu'on est anglo-saxon ou français. C'est une copie conforme. Il s'agit donc d'un coronavirus, un cousin germain du coronavirus actuel, qui est passé effectivement de l'animal à l'homme, qui est devenu transmissible d'homme à homme, et c'est ça le point important, la mutation qui permet la transmission d'homme à homme, parce qu'il y a beaucoup de zoonoses, donc maladies animales, qui vont vers les hommes, mais c'est une impasse, ça s'arrête à l'homme contaminé. Là, c'est transmissible d'homme à homme, donc ça a été le cas du premier, c'est le cas du second. La différence tient quand même à quelque chose d'important, c'est que le premier SRAS, donc de 2004, était assez peu contagieux, mais il était beaucoup plus létal, hein, c'est-à-dire qu'il tuait 10% des personnes qui avaient la maladie. Celui-ci est beaucoup plus contagieux, beaucoup plus, mais il est heureusement moins létal, ce qui est quand même, il est quand même beaucoup trop létal, bien sûr, mais c'est à peu près 2% aux dernières estimations des personnes infectées qui meurent. Hein, donc c'est quand même, bon, on peut dire relativement peu, bien que ce soit beaucoup, évidemment, pour nous.
Mmh. Mais ce SRAS 1 a duré à peine 5 mois, hein. L'épidémie s'est arrêtée en juillet. Comment justement s'est-elle arrêtée ?
Ben alors, il y a deux raisons, je pense, qui fait que... Deux, il y en a même plus, sans doute. Premièrement, il était moins contagieux. Donc, il est moins contagieux, dans la mesure où les mesures de confinement ont été assez efficaces. Rappelez qu'il y a eu, on a arrêté tous les vols en provenance de Hong Kong. Il y a eu deux ou trois pays d'Asie qui ont été touchés, plus le Canada. Donc, il y a eu des mesures de confinement assez rapides. Donc, avec un virus peu contagieux, ça marche évidemment beaucoup mieux qu'avec un virus très contagieux comme celui-ci. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis opposé aux mesures de confinement, mais elles seront évidemment moins efficaces avec un virus très contagieux. La deuxième chose, c'est que comme celui-ci, le premier SRAS, comme ce deuxième SRAS, donc, il semble que ce qui tue les patients, c'est finalement plus des réactions propres aux patients qu'à la virulence du virus lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des réactions, on parle beaucoup de choc septique, d'orage cytokinique, on dit tout un tas de termes pour dire qu'en fait c'est des réactions tout à fait anormales des patients qui font qu'ils sont tués. Et dans le premier SRAS, il semble que cette réaction auto-immune, on peut dire, enfin déséquilibre immunitaire, a été plus importante et en fin de compte donc beaucoup plus que la dangerosité du virus lui-même.
Alors voilà pour un peu ces parallèles entre le SRAS 1 et le SRAS 2 que l'on vit aujourd'hui. Et c'est peut-être d'ailleurs l'épidémie du premier SRAS de Hong Kong qui a inspiré le réalisateur Steven Soderbergh pour son film Contagion, sorti en 2011. Et Sarah Dirène, vous êtes venue avec un extrait de ce film qui dit beaucoup de choses. On va l'écouter.
D'après ce que nous dit Pékin, la contamination est circonscrite à la résidence des chrysanthèmes de Hong Kong. 2 morts et 10 cas suspects.
Qu'entendons-nous par circonscrite ?
Ils se servent des protocoles établis pour le SRAS, mise en quarantaine de la résidence et dépistage des symptômes.
Kowloon est la zone la plus peuplée de la planète. Et Hong Kong est une ville portuaire. Cela va se propager. Nous étudions aussi des prélèvements venus de Londres. Il y a 2 foyers, le premier dans un hôtel, l'autre dans une salle de sport. 5 morts, encéphalite.
Donc à ce stade, je pense qu'on doit estimer que c'est respiratoire. Ou peut-être aussi des fomites.
C'est quoi ça, des fomites ?
Ça s'applique à la transmission par les surfaces. Un individu lambda se touche le visage entre 2 et 3 000 fois par jour.
2 et 3 000 fois par jour ?
Et entre-temps, on va toucher... les machines à café, boutons d'ascenseur, les poignées de porte et les gens qui nous entourent. Toutes ces choses devenant des fomites.
Est-ce qu'on va mettre ça dans le communiqué de presse ? Respiratoire et fomites.
Et l'opinion publique ? Comment va-t-elle réagir ?
C'est difficile à dire.
Avec la grippe porcine, on a juste réussi à effrayer les personnes en parfaite santé. C'est le week-end de l'année où les magasins sont le plus pleins.
Je crois qu'il faut envisager la fermeture des écoles.
Et qui va rester à la maison avec les enfants ?
Quelqu'un a-t-il pu trouver le moyen de militariser la grippe aviaire ? C'est à ça qu'on doit faire face ?
Personne n'aurait besoin de militariser la grippe aviaire. Les volatiles s'en chargent.
Ce qu'il nous faut établir, c'est ceci. Pour chaque personne qui tombe malade, combien d'autres personnes risquent-elles de contaminer ? Donc, pour la grippe saisonnière, c'est en général environ 1. Pour la variole, par contre, c'est plus de 3. Avant qu'on trouve le vaccin, la polio se propageait à un taux qui se situait entre 4 et 6. Bien, on appelle ce nombre le R0. Le R, c'est pour taux de reproduction du virus.
Voilà, ce virus parti donc d'un patient zéro avec un film qui est sacrément prémonitoire. Ce film qui s'appelle Contagion, on vous le recommande, hein, de Steven Soderbergh, sorti il y a presque 10 ans avec Marion Cotillard, Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, etc. Avec cette notion donc du patient zéro, Luc Perrineau, c'est le titre de votre livre, prémonitoire lui aussi. À quel moment dans l'histoire de la médecine, là on va être un peu avant hein, ces épidémies de SRAS, à quel moment justement le terme de patient zéro apparaît?
Alors, avant, les médecins utilisaient le terme de cas index, de cas, CAS, donc cas index, dans deux domaines. Le premier, c'était celui des maladies orphelines, des maladies génétiques. Donc, c'était le premier malade chez lequel on identifiait le gène responsable de la maladie. On disait que c'est le cas index de telle ou telle maladie orpheline. Et puis, on l'utilisait évidemment dans les maladies infectieuses pour désigner le premier patient chez lequel on avait trouvé le bacille de la typhoïde, de la lèpre ou de la tuberculose. Bon, avant, c'était plus difficile que maintenant. Donc, quand on trouve le premier virus, qu'on identifie le premier patient chez lequel on identifie un nouveau virus. Et en fait, le terme de patient zéro a été popularisé. Il n'était pas un terme médical au départ. Maintenant, il l'est devenu. Hein. Mais il a été popularisé avec l'épidémie de sida, donc en 1980. Donc cette épidémie qui, comme vous le savez, a beaucoup effrayé dans les années 80, encore plus sans doute que celle d'aujourd'hui. Et on a découvert un patient américain, c'était un Canadien en fait, un steward qui a contaminé à lui seul un quart de tous les cas de sida des deux premières années 1980 et 81. Il a été vraiment, on l'appelle le super spreader, le super contaminateur. Et on l'a appelé le patient zéro. Il y a même eu un ouvrage d'ailleurs qui a été écrit sur lui seul. Et depuis, ben, on parle en infectiologie, donc on parle toujours de patient zéro.
Alors vous parlez peut-être, vous songez à Gaëtan Douglas, hein,
c'est voilà. Lui
oui, voilà, mais alors justement, en 2016, il y a une étude génétique qui montre ben, qu'il n'était pas le patient zéro.
Voilà.
Comment procède-t-on justement pour démontrer que ce n'était pas le patient zéro?
C'est effectivement la question. Le patient zéro, vous avez raison de le dire, parce que le patient zéro, il est toujours provisoire, en fait. Là, maintenant, on dit que c'est à Wuhan qu'il y a le premier patient zéro, jusqu'à ce qu'on retrouve un patient. Apparemment, d'ailleurs, il y a quelques pistes qui a été contaminé avant ces personnes-là et donc qui a été en contact avec ce nouveau virus venu d'un animal quelconque. qui a été en contact le premier. Donc c'est ce qui s'est passé pour Gaëtan Dugas. D'abord, on a trouvé d'autres contaminations aux États-Unis avant la sienne. Ça c'est les prouesses de la génétique, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on piste la maladie, on suit la maladie. Il y a d'abord l'enquête policière, j'allais dire, une enquête policière de la maladie. On retrouve des traces de la maladie avant. Et puis après, il y a l'enquête génétique où on identifie le même virus que celui qu'on a découvert, mais bien antérieur. Et dans le cas du sida, on est remonté très loin, puisqu'on a réussi à remonter pratiquement dans les années 1920. Alors évidemment, maintenant, la précision va s'arrêter parce qu'on ne trouve plus de virus avant. Mais en 1920, ce serait apparemment, la dernière thèse, un braconnier africain dans la forêt du Congo qui aurait été blessé en chassant un grand gorille ou un chimpanzé. Et donc, c'est le virus de l'immunodéficience du singe, le VIS on l'appelle, qui aurait muté, qui serait devenu VIH, donc immunodéficience humaine, chez ce braconnier africain.
Mmh. Quelle différence faites-vous justement, Luc Perrineau, entre un patient et un malade?
Ah, ça c'est une... Je vois que vous avez bien lu mon livre. Alors, le malade, pour moi, c'est le... C'est donc le citoyen qui a des symptômes. Hein, voilà. Il est malade et donc le malade, il va consulter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, que ce soit dans sa tête, dans son ventre ou ailleurs. Il est malade. Et puis le patient, finalement, c'est un terme qui est médical. C'est nous qui désignons qui est un patient. Et on peut désigner, nous médecins, donc je parle, qui désignons qui est un patient. Et on peut désigner un patient, finalement, qui n'a jamais ressenti le moindre symptôme. Alors, je ne parle pas des fameux porteurs sains, je parle simplement de quelqu'un, par exemple, qui a une hypertension artérielle. Hein, il n'en a jamais, sauf si l'hypertension est à 25 ou 30, mais il n'en a jamais ressenti le moindre symptôme et il n'en ressentira jamais le moindre symptôme. C'est-à-dire que si la médecine ne lui dit pas qu'il est porteur de quelque chose qu'on appelle une maladie, qui finalement n'en est peut-être pas une, mais enfin bon, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais quand on lui dit, voilà, vous avez une hypertension artérielle, mais il n'y a pas un médecin qui lui dit, il ne le saura jamais de toute sa vie.
C'est le cas justement d'un patient, d'une patiente qui ne ressent aucun symptôme, c'est la fameuse Irlandaise Mary Malone. Qui est-elle?
Ah oui. Alors celle-là, on m'a beaucoup fait parler d'elle. Cette histoire a beaucoup plu à tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Elle était peu connue, elle est très connue dans les pays anglo-saxons, elle était moins connue en France et en Suisse, je pense. Alors, cette Mary Malone, elle est intéressante à plus d'un titre. D'abord parce que c'est un personnage romanesque, et alors pour un écrivain, un personnage romanesque, c'est toujours intéressant, évidemment. Et en plus, elle a confirmé ce que pensait Koch, vous savez, Koch, on dit Koch, c'est l'allemand, hein, c'est le Louis Pasteur allemand, Koch, c'est celui qui a donné son nom au bacille de Koch, donc au bacille de la tuberculose. Et ce monsieur-là pensait avec raison que les microbes et les virus qui nous donnaient des maladies si redoutables comme la tuberculose, la typhoïde, finalement pouvaient être portés par des personnes qui ne ressentaient pas le moindre symptôme, qui n'avaient pas la maladie en fait. C'était les porteurs sains. Donc cette idée de porteur sain, il est sans doute le premier à l'avoir, en avoir fait l'hypothèse. Et cette Marie Malone, 4 ou 5 ans plus tard, après cette hypothèse de Koch, cette Marie Malone a effectivement été la preuve vivante de ce qu'est un porteur sain, puisqu'elle a, pendant 30 ans, elle a porté le bacille de la typhoïde, qui, comme vous le savez, est une maladie très grave, hein, beaucoup plus grave que le coronavirus. Elle a porté le bacille de la typhoïde dans sa vésicule biliaire, sans jamais ressentir le moindre symptôme pendant 30 ans, et elle a contaminé des centaines de personnes autour d'elle.
Marie typhoïde, hein, donc porteuse saine, qui a passé de nombreuses années en quarantaine. Est-ce qu'on aurait pu utiliser ces cellules pour en faire un médicament ou un vaccin ? Luc Perrineau.
Alors là, vous parlez du sérum. Alors c'est, mais pour toutes les maladies infectieuses, c'est pareil. Si vous avez développé des anticorps donc contre un virus ou une bactérie, hein, développé des anticorps, donc des immunoglobulines. Hein, les immunoglobulines, c'est ce qu'on met dans les vaccins en fait. Si vous avez développé ces anticorps, on peut prendre votre sérum sanguin, et le donner à des patients malades, non pas comme vaccin, mais comme un sérum, hein, comme le fameux sérum anti-titanique. On peut théoriquement le faire. Théoriquement, je dis bien pour toutes les maladies. C'est d'ailleurs une idée qui a déjà germé pour ce fameux coronavirus. Ce serait pourquoi pas d'utiliser du sérum de patients qui ont été guéris, donc, et le donner à des personnes malades. Bon, ça reste théorique, hein, mais on peut arriver à le faire.
Sarah.
Il n'y a pas que des patients zéro contagieux dans votre livre. Il y a également de nombreux patients zéro sans qui la médecine n'aurait pu avancer. Et je pense au cas de Madame Auguste Deter, hein, qui au début du XXe siècle, c'est une jeune femme qui a des troubles psychiatriques quelque peu surprenants. Qu'est-ce qu'elle a comme trouble ?
Alors oui, je réponds à votre question en disant qu'effectivement, dans mon livre que j'avais fait sans penser qu'un jour il y aurait une épidémie de coronavirus, c'était d'étendre ce terme de patient zéro, donc qui, comme je vous l'ai dit, est réservé à l'infectiologie, mais de l'étendre de façon abusive, mais de façon explicite aussi dans mon livre, je l'ai étendu à tous les premiers cas d'une maladie, les premiers cas d'une maladie. Donc là, vous parlez de Madame Augusta Deter, Auguste Deter, donc, qui avait une forme, ce qu'on appelle, de démence sénile, très précoce. Elle l'avait trop tôt, donc elle l'avait trop jeune, j'allais dire, pour une démence sénile, et qui a posé interrogation au médecin. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette histoire, et dans beaucoup d'autres que je raconte, c'est que finalement, une maladie existe à un moment donné, non pas seulement parce qu'il y a un malade, non pas seulement parce qu'il y a un médecin qui le voit, mais aussi parce que nous avons un certain niveau de progrès technique. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, c'est ce monsieur Alzheimer, donc, qui avait étudié, qui avait découvert avec une autre personne, qui avait découvert la coloration argentique des neurones. Avant, on ne voyait pas le corps des neurones très bien, et là, on l'a vu très bien avec cette coloration. Et chez cette patiente, il a vu que les neurones étaient bizarres. Il avait, bon, je passe sur les détails, des neurofibriques, c'était bizarre. Et il a conclu qu'il y avait un rapport entre les deux. Donc, un nom de maladie a été créé pour ce qui était avant quelque chose, j'allais dire, de banal, entre guillemets. Vous savez, les vieux qui perdent la mémoire et qui ne savent plus où ils sont, ça fait partie de la vie, on disait, ils deviennent gâteux. Il n'y avait pas de maladie, c'était le cours de la vie, j'allais dire, normal, entre guillemets. Mais depuis ce jour-là, c'est devenu une vraie maladie. Et maintenant, on se réinterroge à l'inverse, en constatant que finalement, cette coloration argentique, ces neurofibrilles, ces corps bêta-amyloïdes qui sont dans les cellules, dans les neurones des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, on les trouve aussi chez des personnes qui sont tout simplement vieilles et qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Ce qui fait qu'on pourrait finalement faire une marche arrière, pourquoi pas un jour, on peut l'imaginer, hein, ce diagnostic n'existerait plus, en fin de compte, ce serait simplement un processus normal de vieillissement. Donc c'est intéressant de situer la naissance d'une maladie dans une époque.
C'est ça. Et c'est ce qu'on fait avec vous aujourd'hui, Luc Perrineau. On s'intéresse au patient zéro, un terme qu'on a redécouvert évidemment depuis le départ de la pandémie actuelle, mais on se rend compte que voilà, il existe dans l'histoire de la médecine depuis le sida. Mais si on remonte avant, on avait d'autres termes pour essayer de repérer ces premiers patients. Vous êtes l'auteur, donc vous êtes médecin épidémiologiste, auteur de Patient zéro, histoire inversée de la médecine aux éditions de la Découverte. On va parler à présent du patient zéro de Pasteur. Il s'appelait Joseph Meister. Parlez-nous de ce Joseph Meister.
Alors lui, je pense, alors dans ce livre, j'ai raconté 25 ou 26 histoires, je ne sais plus. Beaucoup de ces histoires ne sont pas du tout connues, ni du public, ni même sans doute de mes confrères médecins. Et quelques-unes, inversement, sont très connues. Hein, alors j'en ai raconté de très connues. Celle de Joseph Meister, elle est évidemment très connue des Français, hein, Cocorico, puisque c'est Louis Pasteur qui a donc... qui est passé grâce à ce petit garçon, il est passé de l'expérimentation canine, donc il avait expérimenté son vaccin contre la rage sur les chiens. Il faut dire que quand il l'expérimentait, il y avait plus de 50% des chiens qui mouraient de son vaccin, à cause du vaccin lui-même. Mmh. Et il a tenté l'expérimentation chez le petit garçon, parce qu'il y avait une mère qui avait beaucoup insisté, mais il faut bien dire que s'il avait fait ça, s'il avait voulu faire ça aujourd'hui, il n'aurait jamais été autorisé à le faire, bien sûr, parce que le risque était trop grand de tuer ce petit garçon. Mais il a eu de la chance. Le petit garçon a eu de la chance aussi. Sa maman, tout le monde a eu de la chance, puisque le vaccin a réussi et n'a pas tué le petit garçon et l'a protégé contre la rage. Donc cette histoire a fait effectivement le tour du monde assez vite.
Oui, oui, mais il y a tout un mythe autour de ce patient zéro qui était Joseph Meister, parce que d'autres patients avaient été vaccinés auparavant. Il y a eu, durant cette année-là, donc 1885, il y a eu, je ne sais plus, 300 au moins vaccinations. Beaucoup d'aura aussi autour de Pasteur. Est-ce qu'on pourrait, alors, si j'ose, hein, faire un parallèle avec la chloroquine, par exemple?
C'est un parallèle qui ne me plaît pas. Alors, d'abord, pour dire que effectivement, Pasteur a fait quelque chose de très risqué qu'il n'aurait pas eu le droit de faire aujourd'hui. Comme quoi, il faut aussi resituer toujours dans le contexte historique. Hein, dans notre éthique médicale a changé, nos techniques ont évolué, notre éthique a évolué. Et donc, il avait effectivement, on raconte, et c'est vrai d'ailleurs qu'il y a un petit garçon qui n'a pas eu la même chance que Joseph Meister et qui a été tué après par le vaccin lui-même, sans doute. Hein, voilà, c'est certain. Il avait aussi fait d'expérience avant, mais on s'est rendu compte que les patients sur lesquels il avait testé n'avaient pas vraiment la rage. Donc oui, il y a eu toute une polémique. Alors la polémique, c'est une des bases de l'évolution de la médecine aussi, pourquoi pas. Oui. Et alors effectivement, là maintenant en France, nous sommes très excités avec cette polémique sur la chloroquine. Bon, ça m'amuse un peu pour tout dire, ça m'amuse un peu parce que franchement, je n'ai rien personnel contre M. Raoult, qui a été un chercheur à une certaine époque, mais oser présenter l'essai clinique qu'il a présenté, franchement, ça c'est irrecevable, c'est inadmissible, c'est la méthodologie est honteuse, ça n'est pas recevable pour un scientifique, ce qu'il a présenté. On se demande comment d'ailleurs il a osé le faire. Voilà, c'est ce que je peux dire sur son essai.
Voilà, et ça c'est effectivement votre point de vue là-dessus. On a évidemment déjà eu l'occasion de passablement...
C'est pas que le mien.
Oui, oui, non, c'est bien, effectivement.
C'est celui de l'immense majorité des scientifiques. Ouais. Non, c'est pas que le mien, non.
En tout cas, un grand merci. On va devoir s'arrêter là, Luc Perrineau. Merci d'avoir rendu hommage finalement à ces patients zéro, ces oubliés de la médecine, avec ce livre donc pour ceux qui ont envie de poursuivre sur cette thématique. Il s'appelle Patient zéro, histoire inversée de la médecine. C'est donc un ouvrage qui est paru aux éditions La Découverte. Je rappelle que vous êtes médecin et épidémiologiste. On peut vous lire régulièrement sur votre blog Humeur Médicale. Voilà, on souhaite une belle journée confinée, Luc Perrineau.
Voilà. Et à vous aussi, au revoir.
Merci beaucoup, vous étiez invité par Sarah Diren. Il est 10h45 sur La Première.